Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Nous allons aborder plusieurs sujets cette semaine et on va commencer par le projet de loi sur la fin de vie. La question de la fin de vie, elle est vraiment au cœur des débats parlementaires. D'abord, après une première lecture à l'Assemblée nationale il y a déjà plusieurs mois, la proposition de loi va être examinée par le Sénat dans quelques jours, du 20 au 26 janvier prochain. Au fond, qu'il s'agisse de l'aide active à mourir ou des soins palliatifs, qui sont les deux volets de ce projet de loi sur la fin de vie, la question quand même centrale, majeure, c'est celle de la dignité humaine. Est-ce que, Monseigneur, pour commencer, vous pourriez nous rappeler ce que c'est que la dignité humaine? Est-ce qu'on peut donner une définition de la dignité humaine qui corresponde à tout le monde?
Il faut prendre les choses de haut, c'est-à-dire, pour un croyant, la dignité humaine, elle n'est pas le fruit d'une convention entre nous, humains, qui déterminons qui est digne et qui ne l'est pas, mais elle est l'accueil de celui qui nous révèle cette dignité, et dans la foi, l'accueil dans la foi de celui qui nous révèle cette dignité, c'est-à-dire Dieu lui-même, et c'est dans le regard de Dieu que se découvre la dignité humaine. Et quand on regarde à partir du regard de Dieu, toute personne humaine, quel que soit son âge, sa situation, son état moral, qu'elle soit le plus grand criminel ou le plus grand saint, qu'il soit le plus grand des malades ou pas, etc., toute personne humaine a une dignité intrinsèque qui relève de la manière dont Dieu la regarde et la révèle, et non pas de la manière dont on se perçoit nous-mêmes. C'est ça l'essentiel. Et c'est le point d'hiatus par rapport au débat actuel et le fait que c'est compliqué de s'expliquer, de se comprendre entre croyants et pas croyants à ce sujet, parce que quand il n'y a pas de référence, je vais dire transcendantale, de référence extérieure à l'homme, eh bien la dignité humaine, elle est le résultat d'un consensus, on convient que ceci est digne et que ceci ne l'est pas. Ben non, ça ne relève pas de notre jugement à nous, ça relève du jugement de Dieu.
Enfin, la dignité humaine, selon le regard de Dieu, alors nos auditeurs comprennent peut-être, mais en tous les cas, dans ce débat-là, il y a beaucoup de personnes qui se réclament de la dignité humaine, qui veulent défendre la dignité humaine, qui sont pour ce projet de loi, en faveur de ce projet de loi, qui sont en faveur de l'aide active à mourir, au nom justement de la dignité humaine, et qui n'en ont que faire du regard de Dieu, qui ne se sentent pas concernés par le regard de Dieu.
Vous me demandez ce qu'est une définition de la dignité humaine. Je vous réponds sur la théorie, sur la dignité humaine, sur ce qu'elle est profondément dans le régime de la foi. Après, on va entrer dans des considérations extrêmement existentielles, pratico-pratiques, et sur les mêmes arguments ou la même appellation de dignité. Il y a aussi le terme de fraternité qui peut être dévoyé, ou interprété autrement. Ne qualifions pas les choses. Même chose, si on a la foi, la définition de la fraternité, c'est en Dieu qu'on va la chercher. Si on ne l'a pas, on va la puiser dans nos propres ressources et essayer d'en déterminer une définition qui convienne à tout le monde. Mais on trouvera des gens qui auront une opinion contraire et ce sera l'opinion majoritaire qui fera la définition. Eh bien non, il y a une vérité intrinsèque des choses. Bon, voilà. Donc à partir de là, il faut entrer dans la gestion de la vie, du concret, de la souffrance de personnes, de familles, de l'accompagnement de ces personnes et de ces familles, etc., etc. Et là, ce sont des questions qui sont existentielles, j'utilisais ce mot, extrêmement redoutables, prégnantes, importantes, et qu'il faut honorer aussi. Mmh. Et donc, on ne navigue pas entre le blanc et le noir, entre ce qui est bien et ce qui est mal. On navigue à partir de références que, quand on a la foi, on trouve en Dieu, dans le réel. Et là, on essaye de faire le mieux possible, ou le moins mal possible, mais en ayant conscience des choses, c'est-à-dire en n'appelant pas bien quelque chose qui est mal en soi, mais en osant reconnaître que dans le contexte, c'est le moins mal ou c'est le mieux possible dans ce contexte. Mais on ne cherche pas à l'appeler bien pour autant.
Je voudrais qu'on profite de cet entretien vraiment pour se pencher aussi, en tous les cas pour avoir une approche miséricordieux, si je puis dire, sur cette question-là, puisque on voit bien que c'est un sujet qui fait débat. On est pour, on est contre. Derrière, il y a surtout des personnes qui souffrent, la personne malade, puis les soignants aussi qui sont dans une situation pas confortable par rapport à tout ce qui est englobé dans ce projet de loi.
Ben oui, bien sûr, et ça c'est le discernement permanent que nous avons à faire les uns et les autres devant la vie. Pour cela, pour faire ce discernement et faire les choix que l'on a à faire tout au long de notre vie, eh bien il vaut mieux avoir réfléchi aux choses, aux valeurs, aux principes que l'on décide de mettre en œuvre et qui sont des phares, des repères dans notre vie. Et il vaut mieux avoir déterminé ces phares, ces repères et ces principes en temps de paix qu'en temps de guerre, pour qu'en temps de guerre, eh bien, on ait ces repères-là et après on choisit, on essaye de faire le mieux possible. Voilà. Et donc, dans le débat, bien évidemment, hein, on est face à des situations extrêmement concrètes et il faut discerner, il faut faire du discernement. Mais le discernement, il se fait de manière juste, non pas dans la pression, non pas dans la précipitation, non pas dans l'idéologie, non pas dans des slogans, non pas dans des anathèmes, mais dans de l'accompagnement, de la présence, de l'écoute, de la chaleur humaine. Et voilà, et c'est beaucoup plus exigeant, évidemment, que simplement envoyer l'autre paître en disant « mais non, il a tout faux, il comprend rien, etc. etc. » Mais c'est vous qui comprenez rien, et puis on ne s'écoute pas, et puis on n'avance pas.
Vous parlez de pression au sein amical. Alors pardon, je vais un petit peu provoquer les choses, mais pourtant, il y a quelques jours, les évêques de France, la conférence des évêques de France, a invité tous les fidèles catholiques à écrire aux sénateurs pour précisément faire pression, justement. Alors à quoi ça sert de faire pression auprès des sénateurs? D'abord, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard? Puis est-ce que c'est vraiment notre rôle de catholique d'écrire aux sénateurs pour leur faire pression?
Alors déjà, ce n'est pas la première fois que la démarche est faite. Hein. À toutes les étapes du processus, la même invitation a été adressée. D'organiser. Et Sabine Barbecombe, la responsable de notre service diocésain de la pastorale de la santé, a essayé de le proposer. Et puis la dissolution de l'Assemblée nationale après les élections européennes ont mis un coup d'arrêt à ce processus. Mais des démarches pour éclairer le jugement, le discernement de ceux à qui il appartient de voter les lois sont proposées à chaque étape. Et donc, ben voilà, on est à une nouvelle étape et la même démarche est proposée. Il y a deux choses. Il y a à la fois le fait de proposer à ceux à qui il appartient de voter les lois, de réfléchir avec peut-être d'autres éléments de discernement que ceux qui sont à leur disposition, que ceux qui leur sont fournis par des partis politiques, par des consignes qu'ils peuvent recevoir, etc. Bon, ben voilà, c'est d'enrichir les éléments de leur discernement, de leur proposer cela. À travers des courriers, à travers des rencontres, à travers... Bon. Et pourquoi pas infléchir ensuite leur décision au moment de voter. Bon. Mais il y a aussi, pour moi, une autre dimension qui me paraît extrêmement importante, c'est le fait d'éclairer ceux qui se réfèrent à l'Évangile, à la foi chrétienne, et d'éclairer leur propre jugement à eux, parce que comme pour l'avortement et comme pour bien d'autres lois, c'est pas parce que la loi existe qu'on est obligé de la pratiquer. Oui. Et donc, dans une liberté totale, où on a le choix de poser un geste ou de ne pas le poser, la loi ne m'empêche pas de le poser, ben même si j'ai le droit de le poser, est-ce que c'est bien de le poser? Et donc, pour ça, il faut éclairer le discernement des fidèles catholiques, des fidèles chrétiens, pour que, confrontés à une situation concrète, ils fassent le bon choix. Et ce choix-là, ben pour eux, en tout cas, qui se réfèrent à l'Évangile, je me dois, moi, pasteur, de l'éclairer.
Voilà, et donc d'abord de s'informer pour pouvoir bien discerner.
Exactement, et donc de ne pas... Je vais reprendre une expression du président Macron au moment des vœux en début d'année, ne le pas céder à l'air du temps, nécessairement. Peut-être que dans cette circonstance, ben, on n'a pas le choix, et très bien, mais peut-être que quand on a le choix, il y a d'autres décisions à prendre, et ne le pas se laisser simplement porter par des arguments qui nous sont martelés en permanence, avec une certaine intention, il ne faut pas se le cacher quand même, et donc que le discernement soit vraiment libre. Vraiment libre, il faut qu'il soit bien informé. Et ma mission, c'est de l'informer. Oh, ben c'est formulé par les uns, par les autres, pour répondre à votre question. Il y a peut-être une intention économique, parce qu'évidemment, ça coûte très très cher de développer des soins palliatifs, et est-ce que notre pays en a les moyens vraiment de le faire partout, partout, partout ?
Ça, c'est pourtant le premier volet du projet de loi, c'est développer les soins
palliatifs. Mais évidemment, sauf que c'est un coût, et donc des choix, et donc, voilà, peut-être que si les gens majoritairement, décident de laisser tomber les soins palliatifs parce que la solution mort assistée, accompagnée, etc., etc., apparaît comme étant celle qui est la plus juste pour la dignité humaine et la fraternité, eh bien, ce sera ça d'économiser. Bon, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions nécessairement à tout le monde, mais c'est certainement une partie du volet qui n'est pas totalement absente.
Pour terminer sur ce sujet du projet de loi, si je peux me permettre de vous poser une question plus personnelle, vous êtes en face de moi, Monseigneur Mika, vous êtes en pleine forme, mais est-ce que vous comprenez, si vous étiez malade dans des souffrances que la médecine ne peut pas soulager, souffrances physiques, psychologiques, peut-être même aussi spirituelles, est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser la question, que vous puissiez être tenté par cette aide active à mourir? Est-ce que vous dites, peut-être que moi, je me poserai la question?
Alors, je n'en sais rien, strictement, je ne sais pas, je le comprends absolument. Et surtout, j'entends les soignants qui, même ceux qui n'ont pas la foi, sont eux au quotidien au contact avec des personnes qui sont dans la situation que vous dites et qui témoignent de la manière dont elles abordent leur propre fin de vie, la souffrance, la maladie et la mort. Et je suis très très sensible à leur manière d'en parler. Et entre autres, parce que ça va dans le sens qui me va bien, mais enfin de dire que quand on explique à quelqu'un qu'il ne sera pas un poids, qu'il sera aimé, qu'il sera accompagné et que tout sera fait pour qu'il ne souffre pas, bien sa détermination à demander une aide active à mourir est quand même sérieusement émoussée, disent-ils. Bon. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passera pour moi dans des circonstances, etc., je n'en sais strictement rien. Mais j'espère que je serai cohérent jusqu'au bout de ma vie. Entre parenthèses, le sacrement des malades, il est là pour ça. Il est pour demander l'aide de Dieu, à être fidèle à sa foi et à la cohérence de la foi jusqu'au bout de sa vie, parce que précisément dans certaines circonstances, cette cohérence peut être mise en péril, en danger, par la souffrance, par le mal. Et donc je comprends parfaitement que la question se pose et que des personnes qui sont confrontées à cette souffrance au quotidien, à un moment donné, ça devient absolument insupportable et soient très tentées d'avoir recours à ces possibilités.
Merci Monseigneur pour votre éclairage sur ce sujet de la fin de vie, sur ce projet de loi de la fin de vie. On va passer à un autre sujet maintenant. La vie dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il y a une semaine, il y a quelques jours, vous avez retrouvé le Conseil diocésain de pastoral, le CDP, pour une matinée de travail. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette matinée de travail? De quoi avez-vous parlé?
Eh bien, le sujet, un des principes de ce conseil, c'est que c'est le bureau du conseil. Je rappelle que ce conseil est constitué essentiellement de laïcs, avec un représentant des diacres, un représentant des prêtres, un représentant des consacrés, mais après, le reste, c'est des laïcs qui sont choisis, deux par doyenné aux paroisses, et puis représentants des mouvements, des services diocésains, etc. Bon. Donc, c'est un conseil de laïcs d'une vingtaine de personnes, pour l'essentiel, et qui est doté d'un bureau, et c'est ce bureau qui a l'initiative de l'ordre du jour de la rencontre. Et sauf si je veux les entendre sur un sujet précis, à ce moment-là, je le dis au bureau et voilà. Mais la règle essentielle, c'est que c'est le bureau qui a l'initiative du sujet. Et là, le sujet qu'ils avaient choisi, c'était l'espérance, puisqu'on était au terme de l'année jubilaire de l'espérance, et ils voulaient parler de l'espérance. Ils avaient envoyé des textes, je leur ai dit à la fin de la rencontre, que le matin, j'étais plutôt perplexe à l'ouverture de la journée, parce que chacun y allait de ce qu'il pensait, de la différence entre espérance et espoir, etc., etc. Enfin bon, et ça ressemblait à une bonne réunion d'équipe de chrétiens qui se réunit tous les mois pour échanger des opinions, des idées sur un sujet. Mais je me disais, en quoi est-ce que cet échange constitue une réflexion qui soit de l'ordre d'un conseil pour l'évêque et sa mission pastorale dans le diocèse. Et progressivement, grâce à un temps d'atelier, et puis l'échange du matin avait mis tout le monde en appétit, puis le temps en atelier avec les questions posées, ont permis d'aboutir à la fin de la rencontre à des propositions, à des idées, à des réflexions qui me donnent des idées qui peuvent être de nature à stimuler la pastorale des paroisses, des mouvements, etc. Et je leur ai dit, au final, j'étais perplexe au démarrage, et je termine en disant que mon conseil a rempli parfaitement son rôle au cours de cette rencontre, et je vous en remercie très chaleureusement, leur ai-je dit.
Voilà, une réflexion donc sur l'espérance pour le conseil diocésain de pastorale. On arrive déjà au terme de notre entretien. Monseigneur Mika, ce week-end quand même, il faut bien le dire, ce samedi 17 janvier, un événement quand même à Argelès, un événement qu'on attend depuis très longtemps, une belle nouvelle pour Argelès, depuis 4 ans, c'est l'inauguration de l'école Notre-Dame et du presbytère d'Argelès qui avait été ravagé et fortement endommagé s'agissant de l'école après l'incendie du 17 janvier 2022, 4 ans après, ouf.
Voilà, quasiment jour pour jour.
Voilà.
Je serai très, très, très heureux. Déjà à la rentrée, j'étais heureux d'aller bénir les cartables, les enseignants et quelques murs de l'école qui avait repris ses quartiers à Argelès. Et puis là, c'est la vraie inauguration et réouverture vraiment solennelle de l'école et du presbytère. Et c'est une bonne nouvelle vraiment dans la réorganisation aussi du diocèse et de la paroisse que de pouvoir poser cet acte qui fait plaisir à tout le monde, parce que ça a été un très très grand traumatisme que l'incendie du presbytère et les dégâts causés autour en janvier 2022. Et voilà, donc c'est un bel acte qui se prépare et qui se vit ce samedi.
Oui, puis c'est un beau clin d'œil aussi au lien entre l'école catholique et la paroisse. Voilà, l'école catholique est vraiment un élément important dans la vie de la paroisse. Et là, le fait que les deux aient souffert et soient à nouveau relancer ensemble, c'est quand même un beau clin d'œil.
Et de la paroisse au sens large, parce que l'école, elle rayonne sur tout le territoire du pays d'Argelès et qui correspond donc au territoire de la paroisse. Et de fait, c'est un beau signe qui est posé, je m'en réjouis.
Voilà, et puis dimanche, vous serez à Recurte pour une bénédiction après travaux, je crois.
Voilà, c'est ça exactement, d'église. Et je, encore une fois, je redis ma reconnaissance aux élus, que ce soit du département, de la commune, parfois les responsables des services de l'État aussi, de la région, qui ont à cœur d'entretenir ce patrimoine et d'éviter qu'il ne se dégrade trop. Et donc, je dis vraiment chaque fois ma disponibilité pour participer à des rencontres comme celle-là. Et c'est toujours un bon moment et une belle occasion pour moi de leur dire ma reconnaissance.
Merci beaucoup, Monseigneur. On en a dit des choses aujourd'hui. Merci, à la semaine prochaine.
Très bonne semaine à tous. Au revoir.